C'est l'heure du LEM, la quotidienne de Transistor du lundi au vendredi. Aujourd'hui, nous sommes aux côtés de l'association Bretagne Vivante.
LEM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour à toutes et à tous, nous ouvrons le LEM, la quotidienne de Transistor, qui creuse le Finistère pour en goûter le sel. Aujourd'hui, nous allons fouler les espaces iodés, et nous allons le faire avec grand soin. Voyez, le printemps s'en vient. Le printemps s'en vient, et avec lui arrivent les gravelots à collier interrompu. Et châssier trapu, paré au cou d'une esquisse de collier foncé qui le baptise, le gravelot à collier interrompu est une espèce emblématique du littoral breton. Migrateur au long cours, ce petit limicole côtier fréquente, comme nous, les grandes plages sableuses. Au beau jour, les gravelots creusent des trous en partie haute de ces espaces et y déposent leurs œufs couleur de sable. S'ouvre alors une période de grand danger où vie et mort entrent en étroite proximité. Le gravelot à collier interrompu est une espèce menacée en Bretagne, en France et en Europe. Ses conditions de nidification à même le sol d'avril à août, période de forte affluence humaine sur les plages, la hausse du niveau des mers et l'érosion des côtes qui en résulte, rendent l'espèce particulièrement vulnérable. Et nous le savons, la part des hommes n'est pas moindre dans la montée de ces périls. Alors une question, et plusieurs insistent. Dans l'espace trouble des grands changements que nous traversons, nous autres, êtres vivants de cette terre, humains et gravelots, comment œuvrer pour que chacun ait place et possibilité de vivre? Quelle relation, pourquoi pas nouvelle, établir entre espèces à l'endroit de nos vulnérabilités? Nous en parlons avec notre invité David Emery, coordinateur régional du suivi de la population de gravelots à collier interrompu au sein de l'association Bretagne Vivante. Cette association, nous la connaissons bien chez Transistor, elle est reconnue d'utilité publique et elle œuvre au quotidien pour une meilleure connaissance et la préservation de la biodiversité en Bretagne. Bonjour David.
Bonjour Anne.
David, peut-être un petit mot d'abord sur votre métier. Quelles sont vos missions au sein de Bretagne Vivante?
Alors, en Bretagne Vivante, je suis chargé d'études et j'ai comme mission principale de coordonner le suivi de la population nicheuse de gravelots à collier interrompu sur les hautes plages.
Alors, si l'on entre au cœur de notre sujet, qui sont les gravelots à collier interrompu?
Un gravelot à collier interrompu est un petit oiseau limicole qu'on trouve sur le haut de plage. Donc il est inféodé à la plage. On peut aussi le trouver sur les milieux du nerf. Et à ne pas confondre avec les bécassos, notamment, qu'on voit en groupe de plusieurs centaines qui courent le long de l'eau sur nos plages tout l'hiver et aussi en migration.
Est-ce que vous pouvez le décrire? À quoi est-ce qu'il ressemble, ce gravelot?
Alors le gravelot est de la taille à peu près d'un merle, un petit peu plus petit, un petit peu moins rond. Le mâle et la femelle n'ont pas tout à fait le même plumage. Le mâle va avoir une calotte chocolat avec un bec noir, des pattes noires. Le dessus du plumage est plutôt marron beige, le ventre blanc. Et il a, comme son nom l'indique, un demi-collier noir qui ne ferme pas au niveau de la gorge. Et la femelle, elle, est plutôt brune, beaucoup moins colorée que le mâle. Sans collier apparent. Et la différence aussi, c'est que le mâle a une barre frontale noire que la femelle n'a pas forcément.
Quelles sont ses habitudes? Quel est son habitat? Comment est-ce qu'il se nourrit? Comment il se déplace?
Alors, c'est un limicole des hautes plages. Donc, on va le retrouver sur la plage, sur les cordons de galets, sur les cordons coquillés en baie du Mont-Saint-Michel, notamment sur les plages de sable, mais aussi sur les dunes. Sur les îles rocheuses, on peut le trouver en tant que nicheur sur les falaises, comme c'est le cas en presqu'île de Quiberon, mais aussi dans des champs maraîchers. Et pour continuer sur sa description, en fait, il va se nourrir de petits invertébrés qu'on trouve sur la plage, notamment les talitres, les puces de mer, qu'on voit souvent sauter entre nos pieds. Et puis, il va se nourrir donc à marée basse, plutôt, sur la laisse de mer, cette bande marron-noire qui est en fait composée de déchets organiques amenés par la marée sur la plage, et qui est un élément fondamental pour la vie de la plage et de la dune. Et ensuite, c'est un oiseau qui est donc migrateur. Donc il vient à partir du printemps. Là, les premiers couples sont observés en ce moment. Ils vont se reproduire à partir de fin mars, début avril, jusqu'en mois d'août à peu près. Et puis après, ils vont se rassembler tous ensemble pour préparer la migration vers la péninsule ibérique et l'Afrique de l'Ouest. Il y a de plus en plus d'oiseaux qui hivernent en France. Et puis au printemps prochain, on reverra à nouveau les gravelots sur nos plages.
Quand vous dites qu'il y a de plus en plus d'oiseaux qui hivernent en France, est-ce que c'est en lien avec le changement climatique ?
Oui, c'est tout à fait ça. Dans les années 80, on n'avait pas de gravelots à collier interrompu qui hivernaient. Les comptages en hiver nous le montraient. Aujourd'hui, on est au maximum, on est atteint 500, voire 700 oiseaux il y a 3 ou 4 ans en France, sur toute la France, sur tout le littoral français. Et c'est dû au réchauffement climatique.
Et s'agissant du gravelot à collier interrompu, est-ce que son comportement a évolué du fait justement des modifications environnementales, enfin des grands changements globaux que nous vivons ?
Alors, est-ce que les changements globaux ont eu une influence sur son comportement au quotidien ? Je dirais que pas forcément. Par contre, les changements globaux vont entraîner une dégradation de ses habitats, notamment par l'érosion marine, l'érosion du trait de côte, qui va faire qu'on va avoir des habitats favorables aux gravelots qui vont disparaître. Mais comme je l'ai précisé tout à l'heure, en fait, il a un panel d'habitats assez large et peut-être qu'il a su anticiper et s'acclimater avant l'heure et que son pouvoir d'adaptation va lui sauver la peau, quoi, entre guillemets.
Donc on va pouvoir trouver des sources d'inspiration auprès des gravelots. Justement, si on continue sur son habitat, vous avez dit qu'il nichait sur les hauts de plage et qu'il se nourrissait, entre autres, sur la laisse de mer. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur cette laisse de mer ? Qu'est-ce que c'est ? Et en quoi est-ce un élément fondamental ?
La laisse de mer, c'est donc tous les déchets organiques marins qui vont venir s'accumuler par la mer. La mer va amener tous ces déchets en haute plage, donc c'est la limite des marées hautes en fait. Donc on y trouve des algues, on y trouve des cadavres de poissons, de mammifères marins et aussi des déchets dus aux activités humaines. Cette laisse de mer est en fait une source de nourriture pour les autres animaux de la plage, parce que des arthropodes, des petits insectes, plein de petites bactéries, de choses comme ça vont venir se réfugier dans la laisse de mer et la décomposer. La décomposition de la laisse de mer va permettre à la flore de se développer. C'est une sorte d'engrais naturel. Et comme on est sur un habitat où la végétation ne nécessite pas un gros apport d'engrais, la laisse de mer suffit pour développer la flore qui elle-même va être un élément qui va permettre à la dune de se développer et de fixer la dune. Donc on a plusieurs stades de dune, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et en fait, la laisse de mer donc, nourrit toute cette flore qui elle-même va pouvoir engraisser, permettre l'engraissement de la dune et maintenir des dunes en bon état de conservation. C'est aussi une protection pour les activités humaines. Parce que c'est le premier rempart contre les tempêtes, contre la montée des eaux.
Donc un élément fondamental à préserver et ça n'est pas dégoûtant, ça n'est pas sale. Il ne faut pas chercher à la ramasser ou à l'évacuer.
Absolument, la laisse de mer n'est rien de plus naturel. Elle devient sale quand il y a les déchets humains dedans, mais autrement c'est tout naturel. C'est un processus naturel qui se fait de lui-même. Et non, il ne faut pas la ramasser parce qu'autrement on tue nos plages, quoi.
Et elle a un intérêt pour limiter les phénomènes d'érosion.
Oui, vu qu'elle engraisse en fait le milieu, elle permet de l'engraissement du milieu dunaire. Elle va empêcher, indirectement, par le jeu des différentes transformations et absorptions par les plantes, de maintenir la dune en bon état de conservation et donc être un obstacle à la montée des eaux, aux tempêtes hivernales, et donc une protection pour nos activités socio-économiques en arrière-dune.
Si le gravelot se nourrit de ce qu'il peut trouver à l'intérieur de la laisse de mer, est-ce qu'il ne se trouve pas parfois amené à ingérer des éléments plastiques qui peuvent nuire à sa santé ?
Alors, sur le gravelot à collier interrompu, il n'y a pas d'études qui étaient menées là-dessus, mais on sait que sur d'autres espèces, c'est le cas. Et en effet, c'est un problème pour la santé des oiseaux. Mais sur le gravelot à colis interrompu, on n'a pas de données là-dessus. Mais il n'y a pas de raison qu'il échappe au phénomène.
Et justement, s'agissant de votre niveau de connaissance des gravelots, vous compilez ces connaissances, ça fait partie de vos missions au sein de Bretagne Vivante. Est-ce qu'il y a des trous à l'intérieur de ces connaissances, des champs mal connus ou inexplorés concernant son espèce et son milieu, et des choses que vous aimeriez approfondir ou carrément investiguer ?
Oui, complètement. On a mené deux plans régionaux d'action de 2011 jusqu'à 2016. Sur le gravelot à colis interrompu. Aujourd'hui, les actions se poursuivent, mais dans un autre cadre. Et malgré toutes ces années d'études, en fait, on a plusieurs thématiques qui ne sont pas renseignées, comme les interactions avec les activités humaines, pourquoi autant d'échecs au niveau des pontes, au niveau de l'élevage des poussins. Quelles sont les sources de dérangement principales sur l'oiseau. Donc à partir de ce constat, on a essayé de mettre en place des protocoles de suivi pour essayer d'amener des éléments de réponse pour combler les trous dans la raquette.
Ok, et ces protocoles-là ont été mis en place quand ?
Petit à petit, en fait, à Bretagne Vivante, on a donc constaté qu'il manquait des connaissances. Et petit à petit, depuis 2021-2022, on a commencé à faire des tests, puis à mettre en pratique les protocoles qu'on avait testés qui donnaient des bons résultats. Du coup, on a développé ça à grande échelle.
D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots des premiers résultats que vous avez obtenus sur ces questions-là ?
Alors, sur le temps d'observation, par exemple, on a 10% du temps où l'oiseau qui couve les œufs est absent de son nid en raison des activités humaines ou des prédateurs. C'est énorme, 10%. On a des données maintenant sur les activités ou les sources de perturbations principales sur le gravelot. Donc en première position sur la plus haute marche du podium, c'est le marcheur, les activités piétonnes qui dérangent plus les gravelots. C'est aussi l'activité dominante sur nos plages. Mais après, on voit que selon les sites, les activités dominantes sont différentes. En baie du Mont-Saint-Michel, ça va être plutôt le char à voile. Dans le Finistère Sud, c'est plutôt les plagistes et les promeneurs. Ensuite, viennent en seconde catégorie les corvidés, les promeneurs accompagnés d'un chien en laisse ou sans laisse. Et après, c'est la cause inconnue, parce qu'on n'a pas su capter qu'est-ce qui avait dérangé l'oiseau ou pas.
Quand vous dites que l'oiseau quitte son nid, ça signifie clairement que les adultes laissent les œufs. Il les abandonne pour un temps donné ?
C'est ça. En fait, quand l'oiseau fuit de son nid, c'est là où le danger commence pour les œufs, pour la ponte. Parce que l'adulte, en fait, va abandonner temporairement son nid. Les œufs vont être laissés à la merci de la météo, donc vont se refroidir, se réchauffer en fonction de la météo et vont... vont empêcher l'embryon de bien se développer. Il faut une température plus ou moins constante pour que l'embryon se développe bien. Et si l'oiseau fuit, il ne peut plus thermoréguler ses œufs. En même temps, il n'y a plus d'oiseaux pour protéger les œufs. Donc, il n'y a personne pour sonner l'alarme, j'ai envie de dire, quand il y a un danger qui arrive. Donc, les œufs sont à la merci des prédateurs, donc de la faune sauvage. Mais ça, à la limite, c'est le jeu. Donc, ça, c'est normal. Mais quand c'est une fuite qui est provoquée par une activité humaine, là, on favorise les prédateurs, en fait. Et puis, tout simplement, un nid qui est au sol avec trois petits œufs couleur sable, si vous promenez sur la plage et qu'il n'y a personne pour défendre le nid, vous n'allez pas le voir. Déjà, des yeux avertis, aguerris, n'arrivent pas forcément à trouver tous les nids. Et puis, on peut faire l'omelette en marchant dessus, mais de façon totalement involontaire. Et donc, voilà, c'est dans ce sens-là que l'espèce est vulnérable. Et surtout, il faut éviter de déranger les individus qui sont au nid, parce que derrière, c'est des causes indirectes du dérangement qui vont peut-être provoquer la perte de la ponte, voire des poussins. Parce que le phénomène est le même pour les poussins. Les poussins ont besoin d'adultes pour se thermoréguler et s'abriter en cas de forte chaleur ou de mauvais temps. Donc si l'adulte fuit, le poussin il est laissé à la merci de tout.
D'où la nécessité d'ouvrir les yeux, mais aussi d'agrandir notre champ de connaissance des espèces qui évoluent dans notre environnement et adopter d'autres habitudes. Nous allons en parler un petit peu plus loin. Vous avez fait référence, David, à un plan régional en faveur des gravelots, dont le financement a été interrompu en 2018, mais les actions se sont poursuivies par Bretagne Vivante et ses partenaires. Comment s'organise justement la protection de ces oiseaux?
Alors en Bretagne, le suivi est assuré par Bretagne Vivante et ses partenaires, comme vous l'avez dit. On a une trentaine de structures à travailler sur le gravelot, depuis la baie du Mont-Saint-Michel jusqu'au sud du Morbihan. La protection prend plusieurs formes. Des protections physiques, c'est-à-dire qu'on pose des enclos, on pose des cages avec des enclos pour protéger les pontes, pour éviter que les prédateurs justement aillent se servir dans les nids des oiseaux. Il faut savoir que le gravelot à collier interrompu est une espèce qui cultive l'échec. Il y a 80% d'échecs sur les pontes. Depuis qu'on utilise les moyens de protection, notamment les cages antiprédateurs, on est monté à 75% d'éclosion. Donc on a totalement inversé le phénomène. La protection se fait aussi par la présence humaine. Il y a des équipes de services civiques, de stagiaires et de nombreux bénévoles qui se mobilisent pour aller au-devant des usagers des plages, faire de la sensibilisation, faire suivre les populations locales de gravelots aussi.
Est-ce que ce sont les gardiens de gravelots?
Oui. Oui. Alors on a laissé tomber le terme de gardien de gravelot, ça faisait un peu trop autoritaire. Donc maintenant, on est juste sur des gens qui surveillent les plages et qui agissent pour la survie des plages, quoi.
Donc c'est un travail de large collaboration finalement, entre partenaires, bénévoles, usagers, services civiques.
Tout à fait, c'est ça, c'est une action collective. Et dans cette action collective, alors, on parlait des financements tout à l'heure, mais les financements viennent aussi des communautés communes, des municipalités. Et du coup, il y a les communautés de communes ou les municipalités qui sont concernées sur leur territoire participent aussi à cette protection de l'espèce et de son habitat.
En Finistère, quels sont les communes les plus concernées par la présence des gravelots?
Alors, la commune qui a la plus forte, plus grande responsabilité en termes de conservation de l'espèce, c'est la commune de Fouesnan. On y a recensé en 2025 ni trouvé et nombre de couples recensés, un total de 52 couples et nids, loin devant les communes du Morbihan et de la baie du Mont-Saint-Michel. Donc en Finistère, c'est Fouesnan qui a la plus grosse responsabilité, et après c'est les communes de la baie d'Audierne.
Alors qu'est-ce qui fait que les gravelots ont une préférence justement pour le pays fouennantais?
Alors là, j'en ai aucune idée, okay. Faudra leur demander, mais qu'eux qui savent. Peut-être les glénans, je ne sais pas.
Est-ce que les collectivités prennent la mesure de l'importance de cette préservation et la prennent en charge? Et si oui, comment?
Alors, je ne peux pas répondre à leur place dans le sens, est-ce qu'ils prennent la mesure de cette protection? Parce que je ne suis pas dans leur bureau, je ne suis pas dans leur tête. Maintenant, ils participent financièrement. Il y a plusieurs communes dans le Finistère qui participent financièrement, et voire même logistiquement à ce suivi. Mais c'était quoi la deuxième partie de la question, pardon?
Dans quelle mesure elle participe activement en fait à cette préservation-là et collabore au bout du compte?
Bah, voilà, de façon financière, parfois de façon technique et en essayant d'avoir un soutien pérenne. Pour l'instant, jusqu'à maintenant, dans le Finistère, on a que des bons élèves, entre guillemets, dans le sens où nos partenaires sont fidèles à l'action. Et chaque année, ils reconduisent leur partenariat.
Et est-ce qu'il y a des actions pédagogiques qui sont menées, peut-être par Bretagne Vivante et aussi au sein des collectivités à ce niveau-là?
Les deux. Bretagne Vivante fait des animations, réalise des animations sur les plages, sur les strands. Et les collectivités, par leurs services d'animation, le font aussi. Ils peuvent organiser des sorties avec les classes, des AME, des choses comme ça. Donc oui.
Donc beaucoup de travail sur le terrain et directement auprès des personnes au bout du compte.
Ah oui, il y a énormément de travail et il en reste encore beaucoup à accomplir.
Peut-être pouvez-vous nous donner quelques chiffres sur l'état des colonies de gravelots en Bretagne à l'heure actuelle et sur le niveau de performance, d'efficacité des mesures de préservation qui ont été mises en place. Un bilan sur 2025 a été effectué. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques chiffres, quelques éléments ?
Alors, en 2025, on a connu un nouveau record au niveau du recensement du nombre de couples au niveau régional. On est à 287 couples. On est quasiment revenu aux 300 couples de 2011. Le Finistère compte pour un petit peu moins de 20% de la population régionale. C'est le Morbihan et l'île et Vilaine où on trouve la majorité de la population de gravelots-coulées interrompus. Après, sur le Finistère, il y a les secteurs de la baie de Dierne, Pays Bigoudin Sud, le pays Fouenantais et le site de Tréguin qui concentre la majorité des couples de gravelots-coulées interrompus dans le Finistère.
Que se passerait-il si ces actions de protection étaient interrompues ?
Ah, ça ne serait pas de bon augure pour la population de gravelots. Alors, d'une part, parce qu'on est, comme j'ai dit tout à l'heure, sur une population qui cultive l'échec. Alors, ce n'est pas très gentil de dire ça pour elle, mais à côté de ça, c'est une espèce très résiliente aussi. C'est un peu petit, mais costaud. Et si on arrêtait nos mesures de protection, alors il faut savoir qu'aujourd'hui, la population de gravelots, elle est quand même sous assistana. Nos actions quand même permettent donc d'avoir beaucoup plus de pontes à l'éclosion, donc plus de jeunes potentiellement susceptibles d'arriver à l'âge adulte. Mais si demain on arrête de poser nos protections, si on arrête de recruter des services civiques pour faire la surveillance des plages, de la sensibilisation, il est possible que d'ici 50 ans, même peut-être un peu moins, il n'y ait plus de gravelots sur nos plages.
Et qu'est-ce que ça emporterait concrètement comme conséquence ? Parce que, bon, je vais me faire l'avocate du diable, on peut se dire à quoi ça sert ?
Ah bah oui, à quoi ça sert ? Moi, je peux vous répondre à rien du tout. Au vu des soucis de la société et des objectifs de société. Bon, mais en fait, là, il faut savoir que protéger la biodiversité, c'est protéger la forme de maillage de vie dont nous dépendons. Parce que la biodiversité nous fournit plein d'éléments pour les médicaments, pour avoir un climat stable, pour avoir une bonne qualité de l'eau, d'alimentation. Et en fait, voir disparaître des pans entiers de la biodiversité, c'est nous qui nous mettons en danger. Alors le gravelot, à quoi il sert pour l'humanité ? On peut se poser la question, on peut se dire, bon, s'il disparaît, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Sauf que le gravelot est une espèce parapluie, que toutes les actions qu'on met en place pour lui bénéficient à tout l'écosystème du haut de la plage. Et on l'a dit tout à l'heure, sur le haut de plage, il y a la laisse de mer, qui est un élément fondamental pour maintenir les dunes et notamment pour se protéger des aléas climatiques et protéger nos activités arrière-dunaires notamment. Donc c'est aussi notre patrimoine naturel. Et si on perd un élément de notre patrimoine naturel, on s'appauvrit. Donc il y a plein de raisons. C'est patrimoine naturel, c'est comme patrimoine culturel. C'est pareil, ça fait partie de nos sociétés.
Comment se fait la sensibilisation justement des usagers du littoral ? Comment est-ce que vous procédez ?
Alors, il y a plusieurs façons de faire. Il y a les gens déjà qui viennent vers nous spontanément, donc nous posent des questions sur ce qu'on fait. Donc, on leur répond avec grand plaisir et on leur montre surtout ce qu'on fait. On leur montre avec nos moyens optiques, donc les jumelles, les longues vues, on leur montre les oiseaux. On leur dit, si on reste loin, on peut aussi les observer tranquillement. Et c'est encore mieux parce que là, ils ne se sentent pas en danger. Donc, on peut voir plein de comportements super agréables et qu'on n'imaginerait même pas.
Alors, à quelle distance il faudrait se tenir des oiseaux ?
Alors, le gravelot est un oiseau on a une hypothèse de travail qui est que le gravelot recherche la présence humaine pour nicher. Alors, il ne faut pas me faire dire ce que je ne dis pas. Hein. C'est dans une certaine mesure, il faut quand même une fréquentation mesurée, raisonnée, sensibilisée. Mais on a vu par nos différentes études qu'une distance de 40 mètres était largement suffisante pour laisser l'oiseau tranquille qui continue de couver ses œufs et qui mène sa petite vie tranquille. En dessous des 40 mètres, il y a plus de chances que l'oiseau s'enfuit de son nid et donc avec des conséquences qui peuvent être dramatiques pour la ponte, même pour l'oiseau lui-même. Et pour continuer sur sensibilisation, c'est aussi des animations pour des scolaires, c'est aussi aller voir les gens quand ils ne font pas forcément quelque chose d'approprié sur la plage. Donc leur rappeler les règles, leur dire que là, il y a peut-être autre chose à faire que d'aller voir au-dessus de la cage qu'est-ce qui se passe en dessous, par exemple. Que le chien, au mois de juin, sur la plage du Finistère, est interdit, qu'il soit tenu en laisse ou non. Des choses comme ça, quoi. Et en même temps, on essaye de trouver des compromis pour... on demande aux gens de s'écarter des nids, de marcher plutôt à marée basse près de l'eau. Et juste quand ils voient qu'il n'y a pas de protection, qu'il n'y a pas de cage ou quoi, à la limite, là, ils peuvent reprendre une activité normale, continuer leur chemin et qu'à chaque cage, à chaque enclos, refaire un petit détour. Donc, je ne pense pas que ce soit très contraignant. Mais voilà, la sensibilisation prend ces formes-là. Puis dans les médias, les articles de journaux, les réseaux sociaux, on essaye d'exploiter tout ce qui existe.
Et est-ce que vous constatez une évolution des mentalités ou est-ce que vous pouvez l'appeler de vos voeux ?
Alors déjà, je l'appelle de mes voeux. Et est-ce qu'on voit un changement de mentalité, de comportement ? Je sais pas, j'ai pas l'impression, en tous les cas, à mon échelle à moi, j'ai pas vraiment l'impression, parce que j'ai même plutôt l'impression de plus en plus qu'on touche à la liberté des gens, genre, soi-disant liberté des gens, c'est pas compris qu'on protège une espèce d'oiseau, qu'on protège un habitat, les gens voient pas l'intérêt, ils voient plutôt leur propre intérêt, avant de voir un intérêt collectif ou sociétal, quoi. Donc, y a des jours où on a envie d'y croire, et des jours où on dit « non, il n'y a rien qui change ». Voilà. Et puis quand on voit nos politiques qui, depuis des années, nous disent qu'en écologie et en environnement, les choses vont changer, Monsieur Macron, si vous nous écoutez pour vos dernières heures, voilà, on peut peut-être faire quelque chose encore.
Ah bon, entendeur. Merci beaucoup David Emery. C'est la fin du LEM de Transistor. Cette émission sera rediffusée ce soir à 18h et demain matin à 8h30. Le LEM sera de retour demain midi. D'ici là, une bise.